début de ce marché de la poésie, nous recevons les états généraux de la poésie en invité d'honneur. Et il y a toute une série de tables rondes. Il nous semblait évident que pour le marché de la poésie, avec tous les éditeurs, alors l'autre jour, il y a eu un débat, une table ronde avec les revues, mais il nous semblait important, essentiel, de faire un débat sur la situation de l'édition en France, puisque ce marché de la poésie lui est dédié, la situation de l'édition de poésie. Donc j'ai demandé à Jamel Mescache, des éditions Tarabuste, de diriger cette rencontre, enfin de tempérer cette rencontre. Ben voilà, je lui laisse la parole, il va présenter ses invités, et puis on va entamer le dialogue. C'est à toi, Jamel, merci.
Merci, Vincent. Alors, je ne sais pas si ce micro marche. Vous hochez de la tête si vous m'entendez. Ça va ? Bon. Alors, moi, je ne connais pas tout le monde. Hein. Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour prendre la température de cette assemblée. C'est ça, un température. C'est quelqu'un qui prend la température, je crois. Est-ce que c'est une température chaude ? Oui, extérieure, apparemment. Et j'espère que, comme moi, vous lisez les informations et que vous savez que le ministre de la Culture est quelqu'un qui est issu de notre milieu. Ceci dit, je vous rassure, s'il ne change rien à notre affaire, c'est parce que d'habitude, nous ne représentons qu'une petite portion de ce qu'on appelle l'édition. Donc, haut les cœurs.
Je vais me permettre d'intervenir pour vous donner une petite anecdote par rapport à notre ministre de la Culture actuel. Lorsque les éditions Actes Sud étaient une petite maison d'édition encore familiale dans les années 88, un jour comme ça, elle était derrière la caisse au Salon du Livre et je suis allé la voir pour lui demander si les éditions Actes Sud viendraient au marché de la poésie. Elle m'a simplement répondu que ce n'était pas le genre de lieu pour eux. Voilà.
Bon, j'espère qu'elle n'aura pas entendu toutes ces méchancetés. C'est un témoignage. Oui, vous savez qu'il y a des témoignages crus qui portent atteinte à nos situations. Alors, ne soyez pas déçus de ce que je ne vous connaisse pas à fond, à part Maxence que je connais depuis très longtemps parce qu'il est toujours voisin, donc... Je ne sais pas ce qu'il lui prend de coller comme ça à mon stand depuis tant d'années. Ou l'inverse. François Heusbourg, qui a cette remarquable galerie, librairie du côté de Nice, pour ne pas dire à Nice même, et qui fait donc suite à une longue lignée d'un travail que d'aucuns apprécient, celui notamment de notre ami Saint-Yves. Voilà. La boucherie, je lui laisserai le soin de se présenter parce que je ne le connais pas très bien. Je ne connais pas très bien cette maison. Mais le mieux, je crois, c'est que vous parliez chacun en vous présentant très succinctement de ce que vous faites aujourd'hui, mais très rapidement, parce qu'on a, je crois, une heure et demie pour dire tout ça. J'essaierai de ne pas me présenter pour vous faire gagner du temps. Comment vous vous sentez aujourd'hui en tant qu'éditeur? Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur aujourd'hui de poésie? 2% de l'édition nationale. À toi.
Alors, je suis Philippe Aigrin, je dirige les éditions publi.net, qui, contrairement à ce que le nom peut vous évoquer, sont un éditeur généraliste de littérature contemporaine, aussi bien en papier qu'en numérique. Personnellement, je suis essayiste sur le financement de la création, poète et performeur. Et dans cette table ronde, on m'avait dit que je devrais parler du rapport entre l'édition et la performance ou le spectacle vivant. Alors j'essaierai tout à l'heure de le faire.
Bien sûr, s'il nous reste du temps, tu parleras de ça. Mais pour l'instant, comme le débat s'appelle la situation de l'édition de poésie en France, on va déjà dire ce que l'on en est.
Voilà. Alors, pour nous, cette table ronde, elle tombe à pic parce que nous sommes en train de donner un nouvel élan à notre collection de poésie. Nous ne sommes pas un éditeur de pure poésie, nous sommes un éditeur de littérature contemporaine avec une collection de poésie et une très forte place de l'écriture poétique, y compris dans des choses qui ne sont pas étiquetées poésie. Le nouveau nom de notre collection est l'Esquif. Elle va être dirigée par Virginie Gauthier et Jean Ifik, qui sont deux poètes typiques de notre ancrage dans les formes d'écriture qui sont développées chez des gens qui écrivent aussi sur le web. Donc, qui ont une écriture quotidienne et tout. Après, nous disons, je pourrais dire que nous cumulons les handicaps, mais que nous essayons de faire de ce cumul un atout. Pour la poésie, nous cumulons les handicaps du fait que c'est un secteur mineur et que n'étant pas étiquetés éditeurs de pure poésie, nous devons montrer la valeur de ce que nous produisons dans ce champ-là. Et puis pour la littérature générale, nous sommes frappés, comme tout le monde, je crois, ici, par l'immense prolifération de l'écriture et parmi elles des contenus de qualité qui méritent d'être édités le fait que par contre à l'autre bout la réception, la lecture, le temps de réception, le temps de lecture, les finances disponibles chez les gens pour acheter des livres n'augmentent pas miraculeusement. Donc je dirais que moi, si je devais dire comment je me sens comme éditeur, je dirais normalement, c'est-à-dire mal.
Très bien. Alors ça, c'est un point de vue. Est-ce qu'il est ressenti de la même façon chez les autres et chez Lanskin, par exemple ?
Alors, moi, je publie principalement de la poésie contemporaine française. Merci. Je publie principalement de la poésie contemporaine française et étrangère. Je publie une quinzaine de livres par an, ce qui est énorme. J'aimerais publier plus, mais beaucoup de mon temps est utilisé à justement porter ces livres. Beaucoup de rencontres, beaucoup de marchés, de choses comme ça, où on a vraiment deux publics, c'est-à-dire un marché de la poésie où vous allez rencontrer des gens qui aiment la poésie et qui viennent et qui sont un peu captifs ou qui sont des poètes, et des marchés qui sont généralistes. Et là, il faut vraiment faire un travail vis-à-vis des gens pour leur expliquer que la poésie, ce n'est pas effrayant, que ce n'est pas dangereux. Et c'est vraiment... moi, j'ai dans mon catalogue des choses très contemporaines et des choses plus classiques, on dira. Et ça me permet de présenter un peu les choses classiques pour amener dans un public non... averti vers des choses plus contemporaines avec des enjeux d'écriture plus forts. Je dirais que je ne trouve pas que être éditeur de poésie, c'est se sentir mal, je dirais c'est de se sentir fatigué parce qu'on fait tout et on est tout le temps en train d'être partout. Voilà.
J'ai l'impression que ton point de vue ressemble à celui de ton voisin. Est-ce que c'est la même chose par exemple pour le Courlevaux Réginal?
Bonjour, Réginal Gaillard, donc les éditions Corlevour et la revue Nunc, qui existe depuis 15 ans, ce mois de juin. Oui, éditeur fatigué, je confirme, mais néanmoins enthousiaste depuis 15 ans. Sinon, s'il n'y avait plus cet enthousiasme, eh bien ça fait longtemps que j'aurais fermé la boutique. Après, on peut toujours se plaindre, on peut se dire que ça manque d'argent, ça manque de public. En même temps, moi, j'ai pas l'impression qu'il est moins présent qu'il y a 15 ans. Et on connaît tous des grands exemples de recueils de très grands poètes d'il y a un siècle qui se sont pas vendus puis qui sont restés dans les cartons, dans la cave de papa-maman. Donc voilà, il ne faut pas désespérer. Et la preuve, je veux dire, ce salon qui tous les ans est noir de monde et tous les éditeurs restent très fidèles. Voilà. Après, l'éternel problème, c'est de ne pas en attendre plus que... ou trop, c'est-à-dire que l'équation économique est quasi impossible. Très peu d'éditeurs parviennent à tirer un salaire décent. On peut toujours tirer un SMIC, hein, mais un SMIC aujourd'hui, on ne va quand même pas très très loin. Et donc, on a tous des activités parallèles, on a tous deux métiers, on travaille la nuit, les vacances. Voilà, donc il faut beaucoup d'énergie et beaucoup de passion.
Et en tout cas, de l'enthousiasme.
Et de l'enthousiasme.
Est-ce que c'est partagé par notre ami de la Tanor ?
Oui, mon voisin, je l'aime beaucoup. J'ai un gros défaut, c'est que j'aime beaucoup trop les éditeurs de poésie et eux ne m'aiment jamais, bien sûr. Ça fait 40 ans que ça dure, je suis un vieux schnock.
C'est vraiment le vieux schnock.
Oui, je suis un vieux schnock Et je pense toujours à la belle phrase de Maurice Clavel. Il y a peu de gens ici qui connaissent Maurice Clavel. La suite appartient à d'autres. C'est pour ça que j'écoute avec beaucoup d'intérêt mes voisins. Cela dit, bon, c'est vrai que c'est une galère épouvantable. Il faut être un peu schizoïde. Je vous expliquerai ce mot compliqué. Et quand même, c'est merveilleux. C'est merveilleux d'être éditeur de poésie parce que ça bouscule la personne, ça bouscule les autres. Et je vais simplement vous dire un mot. Mon voisin, parce qu'il m'a quand même présenté comme un voisin, mon voisin a dit une phrase très simple. Il a dit, on était en train d'essayer d'installer nos stands, il a dit, voilà, on a toujours intérêt à connaître les autres. Ça m'a servi de leçon, et je dis que j'ai eu la chance de connaître beaucoup de poètes dont on connaît les noms, je ne dirais pas si c'est des grands ou des tout petits, et effectivement, on a toujours intérêt d'aller voir chez son voisin.
Merci Jean-Luc. François.
On ne peut pas détester l'éditeur de Gardel Mort de Jean-Louis Giovannoni. Qu'est-ce que tu veux que je dise?
Et où tu en es aujourd'hui avec la poésie, l'édition, tout ça? Est-ce que tu es aussi fatigué, par exemple, que les autres?
Non, moi je trouve qu'on a beaucoup de chance.
Simplement de la chance.
Oui, je trouve.
Et qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est de l'enthousiasme aussi ou c'est...
Non, je trouve qu'on a beaucoup de chance. Il y a un nombre incroyable d'éditeurs, on a un nombre incroyable de lecteurs. Et non, je trouve qu'on a beaucoup de chance.
Ouais. Voilà, tu as beaucoup de chance de ne pas détester les autres parce qu'ils te piquent tes clients.
Mais non, mais c'est bien, plus on est.
Bon, ben alors piquez-lui tous ses clients, il va être très heureux. La boucherie, Antoine.
Donc, la boucherie littéraire, installée dans le Vaucluse, une jeune maison d'édition, 2 ans et demi, fatigué, enthousiaste, chanceux. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de lecteurs qu'il n'y paraît, en fait. Voilà, je suis assez d'accord avec François à ce niveau-là. Et je pense pas qu'on se pique les clients, ça marche pas comme ça.
Oui, c'était une boutade, hein, vous l'avez compris.
Bonjour, mon nom c'est Jean-François Poupard. Je suis l'éditeur de Poètes de Brousse à Montréal, Québec. On m'a invité un peu pour décloisonner le débat, pour voir un peu comment ça marche ailleurs, l'édition. Ce sont des livres, inquiétez-vous pas, faits en français. Évidemment, c'est juste l'accent, mais c'est la même langue. Donc, je pense qu'on peut... être conscient que la poésie, c'est pas le genre le plus olé-olé. C'est un genre symbolique, mais il y a véritablement des ventes reliées à la poésie. J'aimerais qu'on en parle tout à l'heure, voir qu'est-ce qu'on fait comme méthode de vente. Personnellement, ça fait 15 ans que je suis éditeur et j'ai rapidement compris qu'il fallait que je fasse d'autres choses dans ma vie que juste publier de la poésie. Donc, je suis devenu éditeur d'essais. Et tout se vend mieux que la poésie, peut-être qu'en France, nous non. Le théâtre, théâtre est en bas, je pense. Hein, il y a théâtre, il y a poésie. C'est la même chose un peu au Québec. J'aimerais ça voir avec mes collègues un peu comment on peut dénouer tout ça. Sinon, je suis toujours enthousiaste. Et c'est pour ça qu'à chaque année, je viens ici vous voir au marché de la poésie.
Oui, pour prendre des leçons auprès des Français qui ne sont pas enthousiastes et qui vendent très mal la poésie. Merci, merci. Nous allons passer la parole à notre amie qui a un charmant accent, qui est aussi ma voisine, il se trouve. J'adore les voisins. Moi, je suis quelqu'un qui est pour la fête des voisins et de la poésie.
Isabella, des éditions Ypsilon. Je parle aussi français, mais je suis italienne. Mais la maison d'édition est bien à Paris et les livres tous sont français, sauf ceux qui sont bilingues. Donc, je vais ajouter à l'enthousiasme la passion, que je pense que c'est l'une des qualités que tout le monde, parmi nous, tout le monde partage. C'est difficile, c'est fatigant, et c'est passionnant. Et on a de la chance, mais on a aussi beaucoup de courage, je pense. Voilà. Et vous tous qui essayez de nous soutenir avec nous.
Voilà. Merci au public. Hein. Merci au public. Mais nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini parce que nous n'avons pas encore parlé argent. Et si j'ai bien compris, nos amis sont très préoccupés par la part monnayable de la poésie. Est-ce qu'il y a véritablement une part monnayable de la poésie? Est-ce que quelqu'un qui se lance en poésie cherche simplement à faire que son SMIC soit augmenté d'une petite prime substantielle qui lui permette d'échapper à l'emprise même de ce qu'est la poésie, c'est-à-dire l'impossibilité d'être autrement et simplement par l'argent. Alors c'est une question que je vous pose. Je pose cette question parce que je suis, comme vos camarades, venu de l'étranger, passionné par la poésie française, au point que certains pensent que je suis né au marché de la poésie. Mais moi, je gagne très bien ma vie. Je gagne très bien ma vie avec la poésie, parce qu'il y a quand même pas mal. Alors, l'année dernière, Vincent me disait que les statistiques annonçaient entre 70 et 50 000 passages dans ce marché. Vous savez, les brocanteurs seraient heureux d'avoir 50 000 visiteurs. Même à 1 euro, on aurait 50 000 euros. Si on les divisait entre les... On aurait déjà une part du SMIC à la sortie du marché. Évidemment, il y a une part qui nous est piquée par Vincent et ses compagnons. Mais ça, c'est normal aussi. Hein. Alors, je posais cette question, mais on peut commencer comme tout à l'heure. C'est-à-dire, vous lui redonnez le micro... Hein ? Soyons logiques, hein. Continuons. Bah,
on regarde les revenus qu'on arrive à... Il faut être franc. Moi, je suis aussi enthousiaste. Quand je dis que ça va mal, je veux dire, je considère juste qu'il faut savoir que ça va aller mal pour ne jamais se décourager. Donc, on regarde pas de façon microscopique si tel ou tel titre qu'on édite, celui-là, il va être atteint tel taux de rentabilité. On essaye quand même d'éviter des titres qui coûtent très cher à faire et qui se vendront jamais. Mais on regarde globalement notre soutenabilité. Alors peut-être ce que je peux apporter, nous avons une spécificité au niveau des sources de revenus qui est que, comme on a un grand catalogue numérique, en plus des 120 titres qu'on a en papier, on fait des offres d'abonnement sur le catalogue numérique, aussi bien aux bibliothèques, et c'est des offres généreuses, parce que c'est des offres qui permettent aux bibliothèques de vraiment donner, mettre à disposition les fichiers numériques.
Des étudiants, toute la poésie française ou une partie simplement, c'est-à-dire ce que vous publiez, vous.
Là, pour nous, on offre ce sur quoi on a les droits, évidemment.
Je rebondis, parce que là, c'est un très bon conseil pour tes camarades. Donc, faites de la poésie numérique. Vous vous mettrez aussi en bibliothèque, parce que dans les universités, ils ont des abonnements auprès de publi.net.
Les deux conditions pour que ça marche, c'est d'une part que ça ait des fonctionnalités pour les usagers qui valent quelque chose. Donc, c'est l'absence de DRM, c'est des choses comme ça qui vont le décider. Et d'autre part, qu'on rémunère correctement les auteurs sur les revenus qui sont tirés de ça. Parce que si on arrive, nous, à avoir plus de 200 auteurs qui acceptent qu'on donne leurs fichiers aux usagers des bibliothèques sans DRM, eh ben c'est parce qu'ils savent que ça sera une source de revenus.
Peux-tu expliquer ce que c'est que le DRM, parce que ma collègue...
Les DRM, c'est les choses qui empêchent de copier d'un appareil de lecture à un autre, ou qui empêchent de faire de copier une citation quand elle fait plus de 10 lignes. C'est une source à la fois de c'est le grand facteur qui a rendu si impopulaire le numérique en France auprès des lecteurs. Hein. Alors que quand même, ça offre... Moi, je suis un fanat des livres papier, hein, mais le numérique, par l'ampleur de ce à quoi il peut donner accès et par les fonctionnalités différentes de lecture, ça donne vraiment des fonctionnalités qui peuvent réellement séduire des... Et nous avons beaucoup de gens... Nos lecteurs sont fauchés.
Alors, quelle est la part du numérique
dans les revenus? Dans les revenus, elle est. Si on compte les abonnements, les bibliothèques, elle est un peu supérieure à la moitié. Mais si on regardait les ventes numériques à l'unité, c'est négligeable.
Est-ce que les collègues partagent ce point de vue? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont tentés par cette aventure?
Réponse en deux temps, même trois. Personnellement, je ne suis pas du tout tenté par le numérique. parce que personnellement, je n'aime pas lire. Même si professionnellement, parce que je ne vis pas de ma maison d'édition, mais je travaille quand même dans le milieu du livre. Et j'ai deux liseuses à la maison, je reçois des fichiers, etc. Mais je ne parviens pas du tout à lire. Ensuite, il se trouve que dans les quatre nouveautés que j'ai sorties là pour le marché de la poésie, j'ai un Patrick Watteau qui m'a fait modifier le contrat que je lui avais envoyé, qui m'a dit « Surtout, vous indiquez bien qu'il n'y aura jamais de fichier numérique. Je n'en veux pas, je suis comme Mallarmé, je veux le livre concrètement. » Voilà. Troisième chose, il se trouve que je travaille pour, dans la diffusion du livre pour, ouais. Pour une structure qui diffuse. Enfin, le distributeur, c'est la Sodis, donc c'est la maison Gallimard. Ce n'est plus tout à fait négligeable maintenant, le numérique. Ça commence à, je veux dire, c'est entre 2,5%, 3%, 3,5%. Ça commence à faire un peu d'argent dans les grosses maisons. Voilà. Ouais. Et donc, il faut, en théorie, il ne faudrait pas le négliger. Mais dans la mesure où moi je travaille déjà toute la journée, ma maison d'édition c'est le soir et le week-end, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps du tout.
Non, c'est vrai que déjà je trouve qu'on court et que le plus important c'est quand même d'avoir du temps pour lire et puis après pour promouvoir les livres, faire du numérique, enfin avoir un catalogue numérique, j'aurais vraiment pas le temps. En plus. Ce que j'aime dans le livre de poésie, c'est qu'on est très libre, on peut ouvrir, on peut. J'ai vraiment du mal, moi, à lire encore sur une liseuse. Et j'aime. La poésie, pour moi, c'est aussi un beau livre, c'est aussi un beau papier. Voilà, je suis un peu.
Mais ce sont les mêmes points de vue depuis toujours, depuis oui. La naissance du numérique. Enfin, je n'irai pas tout à fait dans le sens de notre ami, mais je dis quand même que l'avenir, il y a un avenir pour le numérique. Mais pas dans le livre simplement en PDF ou en EPUB ou je ne sais pas quoi, mais cet oui. apport du livre augmenté, l'intertextualité, des choses comme oui, ça, oui. sont vraiment très intéressantes et qu'il faudrait pouvoir exploiter sans avoir peur de l'avenir parce que, vous savez, vous êtes comme moi de cette génération qui a cru que parce qu'il y avait eu un livre de poche, nous allions tous crever. Bon, certains objecteront que le livre de poche reste quand même du livre, hein, oui, par oui. rapport à ces choses-là. Mais bon, je pense qu'il faut qu'on passe sur cette discussion parce qu'elle prendrait toute la journée. Moi, je voudrais que mon ami voisin Jean-Luc nous dise, lui, comment il s'en sort. Parce que moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même.
Alors, par définition, il ne s'en sort pas. On peut. Par définition, ce n'est pas ça le plus important, me semble-t-il, après 40 ans d'erreurs, puis quelquefois de trucs intelligents. Je n'ai pas fait que des erreurs. J'ai l'impression qu'il faut laisser parler le hasard, le vrai hasard. Et qu'être éditeur de poésie, c'est essayer de deviner derrière les visages quels sont les univers poétiques de chacun. Et à partir de cette devinette-là, à partir de cette réflexion, on a peut-être une petite chance de temps en temps, ça m'est arrivé assez rarement, mais ça m'est arrivé, mon voisin gentiment a cité un des poètes dont j'ai publié les premiers recueils, le premier recueil qui s'appelle Garder le mort. Bon, j'ai publié pas mal de poètes qui après ont continué leur chemin. La seule chose difficile, c'est ni le numérique, ni de faire un site, ni d'avoir de l'ordre, c'est de ne pas être entièrement nombrilique, c'est-à-dire ne juger que par rapport à son propre nombril, ne pas être seul. Je conseille à tous ceux qui viendront après moi, de ne pas être seul. Moi, je suis quelqu'un de bordélique, qui n'est pas d'ordre, qui ne se passionne que pour la personne, pour l'être, pour le centre. Et j'ai la chance d'avoir une compagne qui, elle, n'est pas bordélique, est très organisée, arrive à me supporter. Elle n'est pas dans la salle, hein. J'espère qu'elle n'entend pas. Et grâce à ça, ça peut faire un éditeur. Mais je crois que c'est quand même le côté métaphysique, le côté invisible, le côté inattendu, le côté aventurier de l'invisible qui fait le véritable éditeur. Le reste, c'est un peu du blabla. Et dernière petite chose que je voudrais vous dire, par hasard, j'ai trouvé chez nos amis marseillais, là, au marché de la poésie, un truc qui s'appelle État généraux de la poésie. Et ça date de 1992. Je me suis dit, ça doit être très très différent. C'est épouvantablement la même chose. Je ne vais pas vous le relire, mais je suis sûr que si j'avais lu le commentaire de Jacques Dupin sur les maisons d'édition, j'aurais pu le signer. Et je ne partage pas du tout les mêmes opinions politiques que Jacques Dupin, qui est un grand poète néanmoins.
Vindicatif et revendicatif, notre ami Maxence, mais effectivement, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit, dans la mesure où ce sont les mêmes questions qui se posent, qui se reposent, et qu'on est obligé d'affronter chacun à notre tour. Néanmoins, pour la partie métaphysique, malgré le fait qu'il faut être nombreux autour de la poésie et se faire soutenir par des proches, je n'ignore pas le fait que devant le seuil, on est toujours seul, cher Maxence. François, pour les états généraux, est-ce que tu penses, du haut de ton jeune âge, nous apporter un éclairage que nous n'aurions pas vu, nous, avec des cheveux un peu plus blancs?
Non.
Non.
Mais ce que je peux te dire, peut-être, le cœur de notre travail, c'est le texte, on est tous d'accord avec ça. La formalisation du texte n'a pas la moindre importance, numérique ou papier ou autre. C'est la même chose. La seule question, c'est comment donner un texte à lire. Et chacun y répond du mieux qu'il peut. Moi, c'est avec du papier, de la mise en page, de la typographie et des livres, j'espère, plutôt bien fabriqués. Mais c'est une option comme une autre. Ce qui compte, c'est le texte. Et comment on le donne à lire, puisque tu posais la question de l'économie. Et l'économie, c'est comment les gens lisent nos textes. Donc, je ne sais pas si je peux te dire quoi que ce soit, mais moi, j'ai beaucoup de chance... Chez une, 90% des ventes, c'est des ventes en librairie. Donc, c'est des gens que je connais pas, que je rencontre pas. C'est toujours très émouvant, on ne sait pas. C'est une communauté informelle. D'un point de vue, si on reste sur l'économie, il me semble qu'il faut poser les choses dans le bon ordre. Une fois qu'on a le texte qu'on a envie de publier, qu'on aime profondément, qu'on veut défendre, qu'on découvre, comment on le transforme en livre. Le coût doit toujours être secondaire. Ce qui compte, c'est de faire le plus beau livre, sinon on ne le vendra pas. Ensuite, bien rémunérer chacun, l'auteur. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il faut bien rémunérer nos auteurs. Par exemple, aux éditions, on verse un avaloir à tous les auteurs. Et puis ensuite, je disais qu'on avait de la chance. On a de la chance parce qu'on a quand même un formidable réseau de librairies en France. Il y a une présence forte de la librairie indépendante qui défend la poésie, qui défend la littérature, qu'elle soit ce qu'on appelle exigeante ou plus facilement accessible, même si ce n'est pas des catégories trop strictes. On a aussi des institutions qui nous soutiennent fortement, on ne peut pas le nier. Ici, le CNL fait un travail formidable, sans quoi nous ne pourrions probablement pas exister, ou en tout cas pas dans ces conditions-là. Moi je pense que la seule question qu'on doit se poser, c'est le texte, et une fois qu'on a le texte, comment on le fait lire? Tout le reste en découle et tout le reste devient naturel.
Oui, ça semble tellement... Oui, je vais te donner la parole. Ça semble tellement simple, effectivement. Vu comme ça, c'est très positif, très optimiste. Et je suis assez admiratif de cet état. Je souhaite que...
Tu veux venir faire un stage à Nice?
Je suis un peu vieux pour les stages. Tu sais, je suis plutôt de la génération des anti-stages. Alors, un autre jeune qui aussi connaît un petit peu la librairie, je crois, non?
C'est toi, jeune.
Oui. Oui, tu es jeune, non? Oui, tu es un jeune éditeur. Et que tu connais bien la librairie, je crois, non?
Oui. Je connais un peu la librairie parce que j'ai une formation de mon métier du livre. J'ai été libraire pour les autres. J'ai eu ma propre librairie. Et pour moi, en tant que jeune éditeur, en tout cas, il était impossible de concevoir l'édition sans la diffusion en librairie des livres. Et je suis toujours très mal à l'aise sur les marchés, d'ailleurs. J'estime que ce n'est pas à la place de l'éditeur d'être derrière un stand pour vendre des livres. C'est pas, voilà. Éditer, ce n'est pas vendre. Éditer, c'est créer. Et la vente, pour moi, elle est vraiment pour le libraire. Donc voilà, je travaille ma diffusion, j'ai un distributeur. Et je prends un risque. Nous, on ne verse pas d'avaloir. Je prends le risque de verser l'intégralité des droits à l'auteur avant la vente des livres. Et après, c'est à moi d'y aller et de m'engager. Et il y a encore autre chose au-delà de l'enthousiasme. Il est impératif de se faire plaisir. C'est avant tout du plaisir. Il faut que ce soit amusant. Voilà. si on ne s'amuse pas à faire l'édition, ben voilà, mon but, c'est d'être là dans 20 ans encore et de m'amuser. Mm-hmm.
Est-ce que tu pourrais donner ton micro à Tula ?
Je voudrais juste prendre la parole parce que je suis très heureuse d'entendre cet enthousiasme et tout ce côté positif. Mais quand même, on ne mange pas de la gloire. Et quand même, éditer, ce n'est pas que de la création. Et quand même, moi, j'aimerais avoir le SMIC, pas avoir un petit plus du SMIC. Je suis tout à fait d'accord avec François, les éditions 1, que les institutions nous aident beaucoup. Pas simplement les institutions culturelles, que moi, je tiens toujours à rappeler, en France, sont formidables. Et ça n'existe pas partout, les centres nationaux du livre. Ça n'existe pas partout, la maison de la poésie. Ça n'existe pas partout, le salon, le marché de la poésie. En Italie, tout ça n'existe pas. On est très proche, cependant. Et ça n'existe pas dans beaucoup d'autres pays européens. Donc ça, je tiens toujours à le rappeler ici. Et les autres institutions, c'est aussi quand on a une prime pour l'emploi. Parce que quand on n'arrive pas à avoir le SMIC, la prime pour l'emploi, ça aide pas mal. Et quand je dis qu'on est courageux, on est courageux parce qu'on arrive à se contenter de peu. Moi, je n'ai pas un autre boulot que l'édition. Donc, je le fais le jour, la nuit, le samedi, le dimanche, avec un grand, immense plaisir. Je pense que j'ai de la chance parce que je peux faire ce que j'aime le plus. Et j'ai de la chance aussi parce que j'arrive parfois vraiment à être fière d'arriver à réaliser un projet difficile, parce que moi, je rémunère aussi tous mes traducteurs et à la hauteur de leur traduction, ce qui veut dire des tarifs absolument pas négligeables. Parfois, les auteurs rêvent d'avoir cette rémunération que les traducteurs ont tout de suite. Ils ont trois fois, mais la publication du livre l'ont tous. Donc, et je ne suis pas d'accord que ce n'est pas bien d'être ici en tant qu'éditeur, parce que souvent, on oublie que derrière un livre, il y a aussi l'éditeur. Et ce n'est pas pour mettre ma tête, ce n'est pas pour donner mon nom. Moi, je dis tout le temps, je m'appelle Isabella, mon nom de famille, il est très difficile et je ne l'aime pas, donc je l'oublie, ou Ypsilon, ça me suffit. Mais c'est parce qu'on peut faire partager qu'est-ce que c'est éditer, ce qu'on est en train de dire maintenant, la chaîne du livre, choisir un papier, choisir un caractère, choisir un auteur, choisir un traducteur, les pépins, les trébuchements qu'on rencontre. Et ça, parfois, les lecteurs sont très étonnés, parce que souvent, quand on... Je sais pas, on est en vacances, quel métier tu fais? Je suis éditeur. Ah bon, t'écris? Tu publies tes textes? Et souvent, les gens me disent, donc tu traduis, parce que je suis italienne, t'as l'accent, donc je traduis. Non, je traduis pas. Vous écrivez? Non, je crie pas. J'aime lire. Et lire, c'est une pratique, c'est pas juste... Et ça, on peut le dire plus facilement quand on est en face au lecteur, je pense.
Oui, je crois qu'effectivement, lire est une pratique aussi importante, au moins aussi importante que d'éditer, hein, ou en tout cas d'écrire. Mais est-ce que la situation est la même, par exemple?
Un livre de poésie a beaucoup besoin d'amour, il faut l'accompagner. Et contrairement au roman, qui si dans 3 ou 6 mois se vend pas, ben la poésie, elle peut, je pense qu'un bon recueil peut vivre à peu près 5 ans. Mais il faut l'accompagner, il faut faire un lancement, il faut aller voir les libraires. Le numérique, moi j'en ai fait 16 et ça n'a pas été concluant, c'est à peu près 2-3%. Les États-Unis, c'est quand même 18-20%. Et en numérique, ceux qui se vendent déjà très bien, comme Stephen King, va très bien se vendre en numérique. C'est pas les marges qui vont popper, comme on dit. Ce qui se vend, c'est 50 Shades of Grey en numérique va bien se vendre. Mais pour venir au recueil, ben, il faut l'accompagner. Il faut le présenter, il faut aller voir les libraires, il faut le mettre en spectacle, il faut faire les foires, il faut faire les salons du livre, il faut faire les marchés du livre, il faut faire de grands signes, il faut faire des spectacles autour du recueil. Le recueil est toujours bon. Si je ne le vends pas cette année, ben l'an prochain, je vais sûrement le vendre, il va être aussi bon. Contrairement, encore une fois, à d'autres genres où c'est la publicité qui l'emporte. Il faut de l'inventivité, il faut de la générosité avec la poésie. Évidemment que c'est un petit marché. Les ventes avec les copains français, moi, ça fait quand même 15 ans que je viens vous voir. C'est à peu près le même tirage. Et Yves Bonnefoy, quand il faisait du moment, regardez, début et fin de la neige, on est dans les années 86-87, ben, il tirait à 2000 exemplaires. La première année, ils en vendaient 1000 et ça prenait peut-être quelques 7-8 ans pour qu'ils vendent l'autre 1000. Ce n'est pas des vrais, de vrais chiffres, c'est quand même Yves Bonnefoy. Et les premiers tirages au Mercure de France, ça oscillait autour de 3000. Et c'était le très grand Yves Bonnefoy. Donc, il faut qu'on soit quand même réaliste par rapport aux vrais chiffres. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voulez parler de chiffres, combien vous imprimez et combien vous vendez, ou c'est complètement secret. Moi, ça ne me dérange pas de vous le dire. Là, mais...
Réginald, tu vas peut-être nous parler de ta situation en tant qu'expert de la distribution, diffusion.
Juste un complément d'information à propos d'Yves Bonnefoy. Les planches courbes, c'est 200 000. Mais parce qu'il était prescrit. Oui, non, mais il fallait... Voilà. Il y a des exceptions qui aussi à côté. Mais ceci pour dire que...
Pour le public, la prescription, c'est quelqu'un qui dit que c'est un très bon livre. C'est des spécialistes qui se réunissent, généralement
c'est
chez Gallimard, oui.
C'est au Mercure.
Et ils se réunissent et ils disent, ça, c'est un très bon livre. Il faudrait que toutes les bibliothèques de France... Vous ne savez peut-être pas que ça existe. Mais ce qui nous arrangerait, c'est qu'ils disent qu'il faudrait que tout le public de France ait ce livre à la maison sur la cheminée. Et alors là, on serait tous sortis d'affaires. Parce qu'avec ce qu'on dit là, je rappelle que nous ne représentons toujours que 2% voilà. de la production de livres en France, numérique compris.
Mais Jamel, les chiffres sont très bas, même dans les grandes maisons d'édition. Chez Gallimard, il y a des poètes.
Verte que j'ai beaucoup fréquenté, voilà. à la fin d'un voilà. livre qui a été tiré à 3000, 5000, vendait 800 exemplaires.
Voilà. Donc, et c'est le cas encore. C'est encore le cas aujourd'hui. Et j'ajouterai, pas seulement pour la poésie. Chez Gallimard, il y a des romans qui n'excèdent pas 500 exemplaires.
Voilà.
Il faut pas mythifier cette couverture. Il y a des locomotives. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce que nous aimerions tous avoir, c'est quand même un ou deux auteurs qui enfin fait 2000 ou 3000 exemplaires pour nous permettre de faire, parce que la plupart de nos livres n'excèdent pas 100 ou 150 exemplaires,
bon,
parfois 200 ou 300.
Tu as raison, mais parlons de notre expérience personnelle. Est-ce que dans vos catalogues, vous avez, je parle moins pour les libraires, mais ceux qui sont créateurs, éditeurs, qui portent leurs livres, on a du mal à imaginer un galeriste dire à son artiste, bon, tu viens avec ton tableau, tu vas t'accrocher là, puis quand la foire est finie, tu rentres, tu te démerdes. Parce qu'un éditeur, c'est pas ça. Je pense que l'éditeur, c'est quand même quelqu'un qui va, par amour pour un texte, pour un visage, pour une altérité, dire, je vais te porter, te mettre dans mon cabas, je vais te traîner pendant 20 ans. Parce que moi, il y a des livres que je vends encore aujourd'hui, que j'ai édités il y a 20 ou 30 ans, qui sont encore vivants. Il suffisait juste que je les emballe correctement pour ne pas les abîmer. Et je les vends encore. Alors, 5 ans, c'est même pas une question qui m'effleure. Je veux dire, moi, je ne vends du qu'à la ferme. Il est mort depuis 24 ans et j'en ai encore que je vends régulièrement. Est-ce que dans vos catalogues, vous avez des choses qui vous permettent d'échapper à cette espèce de pseudo-réalité qu'on veut nous imposer absolument, que la poésie, le texte de création poétique, ressemble à n'importe quel autre texte ?
Peut-être je peux enfin parler de ce qu'il y a d'autre que simplement le texte. Hein. Parce que comme nous, on est une équipe, éditoriale où on est tous auteurs. Et ce n'est pas du tout quelque chose que je veux ériger en norme, parce que je pense que c'est très important qu'il y ait des éditeurs qui ne soient qu'éditeurs. Mais nous, on est comme ça, et on est des auteurs qui travaillons quotidiennement dans l'espace numérique, qui n'a rien à voir avec l'e-book et ces horreurs-là, qui sont, vous éditez de la poésie à l'intérieur d'un format e-pub, c'est un cauchemar. Pour arriver à faire ce que vous voulez faire en spatialisation, en qualité des césures, des pages et des choses comme ça. Donc, du coup, comme on a énormément de relations médiées avec des lecteurs, mais à travers les web, du coup, l'espace de la rencontre physique, il est essentiel. Donc, on travaille énormément... en faisant des événements autour de nos livres, qui nous des lectures publiques, non seulement nos livres, mais aussi les livres d'autres éditeurs, parce que moi j'étais très sensible au fait de dire, finalement moi je suis convaincu qu'on s'en sortira ensemble ou pas, hein, d'une certaine façon. On voit sans arrêt, très franchement, moi quand je vois mes concurrents d'aujourd'hui sont très mal, j'essaie de les aider. Quoi, hein, et je pense que je ne suis pas du tout le seul, il y a vraiment une solidarité profonde. Et donc, dans les événements de performance que nous organisons, il y en a qui sont spécialement conçus pour les auteurs de notre catalogue, les textes de nos catalogues, mais il y en a d'autres, que ce soit à travers Général Instinct, à travers des festivals comme celui que j'ai organisé avec Mathilde Roux, qui s'appelait Incipit, on rend public par la parole, par la performance, des textes, par exemple, édités par ma voisine, des auteurs édités par ma voisine, et on se sent, pour nous, c'est notre communauté d'appréciation littéraire. Hein. Moi, on a beaucoup d'auteurs, c'est peut-être une grande différence avec une ère où on était un auteur de tel éditeur, nous, on a beaucoup d'auteurs qui sont aussi édité chez d'autres éditeurs. Et on considère ça comme absolument normal et même souhaitable pour les faire exister. Parce que, comme ça a été très bien dit, pour qu'un livre il existe et il existe dans la durée, il faut le porter et le ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi avoir une image d'éditeur, hein, bien sûr. Voilà. Donc, moi, je crois que cette évolution, il y a eu des critiques qui ont été apportées à l'évolution vers la performance depuis l'existence de la poésie sonore dans les années 60. Il y a des gens qui ont dit non, la poésie, c'est le texte, c'est pas ça. Bon, moi, je pense que ici, c'est le marché lui-même est la preuve que le texte et la lecture et la performance et même simplement la captation pour la diffusion sont des choses qui travaillent ensemble à faire exister une œuvre.
Jean-Luc, je voudrais que Jean-Luc réponde un petit peu par rapport à cette dimension historique de la difficulté presque d'être poète. Est-ce qu'aujourd'hui on est le poète d'une maison ou est-ce que comme toi, parce qu'on a édité il y a très longtemps des jeunes qui sont ensuite partis ailleurs, on mesure combien ça a été important dans ta trajectoire?
Oui, pour moi, ça a été très important. Alors, l'ai-je fait exprès? Je n'en sais rien. Je suis désolé. Mais par contre, je l'ai fait avec amour, pour reprendre un mot qu'il faut oser dire. Alors, je pense là à deux auteurs particulièrement. J'avais 20 ans. J'avais très court, hein, je vous rassure. J'avais 20 ans. Je chantais faux. Je cherchais qui j'étais. Je voulais être éditeur, je pense que vous vous souvenez tous, même les plus jeunes. Et voilà, bon. Et je connaissais une dame et un garçon que j'aimais beaucoup, qui savait à peine écrire, à peine écrire. Alors ça rentre pas dans les, il n'y avait pas de numérique, mais ça rentre pas dans les classes habituelles. Et puis j'ai publié les deux personnes en question. Non seulement j'ai vécu avec, oubliez cette phrase, mais en plus j'ai publié les deux. Et puis je me suis dit, bon, ça va faire 250 exemplaires, peut-être 300, et ça ne va pas durer longtemps. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. Le premier auteur s'appelait Jean-Louis Giovannoni. Ne le dites pas, j'espère qu'il n'est pas dans la salle. Et le deuxième s'appelait Ghislaine Amon, A-M-O-N, et s'est appelé ensuite Raphaël Georges. Donc j'ai publié ces deux auteurs au feeling, à l'envie, au désir, parce qu'il n'y a pas de... À vous écouter, il n'y a pas d'éditeur sans désir. Un éditeur qui ne désire pas ferait mieux de faire autre chose. Voilà. Alors moi, j'ai publié ça, puis j'ai un peu oublié. Après, j'ai fait faillite, j'ai refait une maison d'édition, j'ai été thérapeute, j'ai fait plein de conneries, nobles, mais des conneries quand même. Et puis, j'ai fait le nouvel Athanor, c'est-à-dire, c'était avec le rêve du premier Athanor où j'avais publié, notamment... Jean-Louis Giovannoni et Raphaël Georges. Non pas Raphaël Georges, Ghislaine Amon. Le temps est passé, j'ai vieilli, j'ai pris des rides, gna 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 gna, je vais très vite. Et je me suis aperçu que le premier recueil de Jean-Louis Giovannoni, qui était exceptionnel au niveau valeur, il avait été réédité par d'autres, des petits jeunes cons, comme mon voisin, qui non seulement avaient trouvé ce texte merveilleux, mais il l'avait réédité, il l'avait défendu
en respectant parfaitement d'ailleurs la déontologie par rapport au premier éditeur. Il y a aussi des éditeurs qui ont cette joie-là. Alors je ne vais pas vous raconter les noms, éditer c'est pas éditer les noms, mais quand on ne le fait pas exprès, c'est quand même ouvrir la porte à des poètes. C'est aussi cela, à travers le numérique, ouais, qu'importe le support, pourvu qu'il y ait l'âme. Je retombe encore dans mes défauts habituels.
Merci Maxence pour ce témoignage. Effectivement, Jean-Louis Giovannini, pour ceux qui ne le connaissent pas, fait aujourd'hui partie du paysage poétique le plus, osons le mot, contemporain. Et c'est pas parce que Maxence l'a édité il y a quelques années qu'il fait partie des anciens qui auraient disparu. Mais la situation de l'édition poétique aujourd'hui, je dis bien poétique parce que j'ai toujours peur, parce que sous prétexte que nous sommes dans un marché, dans un salon, on dit l'édition. Alors, c'est vraiment l'édition de poésie. Qu'est-ce qui est vraiment différent? Je veux dire, un livre est un livre, malgré tout. Il y a de très beaux textes quasi poétiques chez certains éditeurs, on ne va pas faire de la pub ici, mais qui ne sont pas, comment dire, perçus comme de la poésie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette différence qui fait qu'on est de la poésie ou qu'on n'en est pas? Et pourquoi tout d'un coup, simplement parce qu'on est de la poésie, on a des difficultés à atteindre 500 exemplaires, et parce qu'on n'en est pas, on tire tout de suite à 3000, même si on en manque 500, après tout, tu as peut-être raison. Quelle est la différence? Alors, des éditeurs spécialisés, jeunes et moins jeunes, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est de la poésie? Est-ce que c'est simplement parce qu'on revient à la ligne? Répondez. François, les plus jeunes.
J'ai pas de réponse. Mais sans mauvaise volonté.
Ce qui effraie peut-être dans la poésie, c'est que c'est un usage du langage qui n'est pas le plus courant, qui n'est pas celui de la prose romanesque, du récit, etc. Donc il y a un rapport au langage qui est radicalement différent. On dit le monde, on dit la réalité avec les mêmes mots, mais d'une autre façon, avec un nouvel agencement. Et cela nécessite, pour y accéder, d'avoir peut-être soi-même déjà traversé le langage d'une certaine façon.
Bien sûr.
Et donc, mais je suis d'accord. Ça touche forcément une population beaucoup plus réduite.
Mais voilà. Je vais être plus prosaïque que ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez tous connu ça, si vous êtes touché par la poésie, quand vous arrivez dans une structure publique de type bibliothèque, on dit « Ah non, c'est de la poésie, je n'en prends pas. »
Mais c'est un
genre.
Parce
que vous savez tous que la poésie ne sort pas.
C'est un genre.
Comme si elle n'était jamais entrée. Et puis tout d'un coup, on nous dit « Ça, ça n'est pas de la poésie, donc je prends. »
C'est le commun, comme les gens qui pensent que qui est fort en maths ne va pas être fort en littérature, que la poésie c'est fait des vers. Ça c'est tout le commun que je pense tout le monde ici est prêt à remettre en cause. Et quand on ouvre un livre, on ne peut pas savoir s'il est difficile ou pas si on ne le lit pas.
Ça n'est pas que ça, je crois, parce
non
que Rimbaud est entré dans les bibliothèques.
Oui, mais
Combien de temps?
Mort, hein. Ça c'est un autre problème, quoi.
Alors, c'est-à-dire... doit-on attendre de mourir? Voilà la question, alors.
Non, mais Roubaud, dans les remarques poétiques, il dit c'est l'ouverture de nouveaux possibles dans la langue. Et ça nous interdit. C'est évident qu'il y a plein d'ouvertures de nouveaux possibles dans la langue qui s'effectuent dans des choses qui ne sont pas étiquetées poésie. Je pense que l'étiquette, c'est du marketing. C'est l'étiquette, c'est du marketing au sens où c'est un segment de marché, un segment d'événement, un segment de un rayon dans les librairies caché derrière la caissière, on peut même pas y accéder. Enfin, les librairies générales, c'est des choses comme ça, sauf quelques librairies amies de la poésie. Hein. Donc mais il faut pas confondre les deux. C'est-à-dire moi je serais terrorisé qu'on se mette à faire des barrières, des frontières trop strictes entre ce qui est de la poésie et ce qui n'est pas de la poésie. Et on arrête, il y a plein de fois dans la pratique de Publinet où on a une collection de littérature contemporaine et une, générale et une collection de poésie, et jusqu'au dernier moment, on hésite dans laquelle on va mettre un livre.
Merci pour cette ouverture.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur les collections. Pour te répondre, nous, on a décidé de ne pas s'embarrasser. On ne met jamais si c'est de la poésie ou pas. C'est le lecteur qui décide. C'est pas pour ça que je ne répondais pas. Ce n'est pas une question personnellement qui me préoccupe. C'est-à-dire, au fond, moi, je publie des livres. Je ne me suis jamais préoccupé de savoir quelle était leur nature ou leur genre. C'est pas une interrogation qui me vient à l'esprit. Après, on dit plein de choses sur la recherche littéraire, etc. Mais au fond, il y a autant d'inventions chez un grand poète que chez Claude Simon ou que chez Guyotat. Moi, je ne sais pas si Eden, Eden, Eden est un livre de poésie ou un roman, j'en ai aucune idée. Tu vois, je pense que le mieux à faire, en fait, c'est pas les éditeurs qui font la littérature, c'est les auteurs.
Oui, mais pour atteindre les auteurs et atteindre le lecteur, il faut tout de même caractériser la chose. Bien sûr, on peut toujours dire que le roman peut être poétique, la poésie peut être romanesque. On peut toujours dire que la prose est poétique. Ça devient un discours un
mais
peu...
Mais c'est toujours fatigant.
Qui n'a rien
tout
à voir.
Tout est poétique, sauf le poétique.
Sauf le poétique, exactement.
La poésie fait peur. La poésie est encore un genre très marginal et marginalisé. Un beau paysage est poétique, une rencontre est poétique.
Une assemblée
peut être poétique. Et le roman poétique... Mais la poésie, ça fait toujours peur.
Oui, mais ça, je suis d'accord.
Et pourquoi payer tant, 15 euros, il y a deux mots par page, ça, les gens encore, ils n'en sont pas revenus. Ça, c'est sûr. Hein, le blanc dans le poème, ça nous tue, là, mais vraiment. Il dit, mais pourquoi tu changes de page? Il y a comme une perte économique, et là, on dit, ça se peut pas, là. Ça, il faut expliquer, puis bon, mais parler de Mallarmé, là, c'est désolant, mais ça fait perdre des ventes. Oui, mais madame, mais Mallarmé, vous dites, t'es fini. Faut faire des trucs. Nous, on fait des formats poches. Petits formats poches qui se vendent bien. Et on a la chance d'être un peu décomplexés. Il y a des professeurs d'université et de lycée qui mettent des poètes contemporains à l'étude. Donc, on peut prévoir qui on est rentré dans les corpus. Vous, je pense, le plus jeune, c'est Apollinaire qui est à l'étude, là, non? Nous, c'est quand même, il y a des jeunes de 30 ans. Ici, il y a François Guérette au stand des poètes de Brousse. Il vit de sa poésie, littéralement. Il vend 2000 livres par année. Bon, mais il travaille fort, il est tout rouge, il est en plein soleil, là. Mais c'est quand même possible. Il est là et l'an prochain, il va être encore mieux au programme. Mais ça roule encore. On est un peu chanceux. Mais je pense que les auteurs contemporains, le français, c'est pas possible d'être étudié à l'université, non. N'avez-vous un étudié à l'université, là? Monsieur Nouvel-Atanor, y en a-t-il un qui est dans le corpus ou pas pantoute?
Il y en a quand même quelques-uns.
Mais les universités elles-mêmes sont différentes au Canada et en France.
Oui,
les sociétés sont différentes aussi.
Oui.
Je peux dire juste une chose de Mallarmé, Les coups de dés, dont j'ai fait l'édition que je prétends la meilleure qui existe. J'en ai déjà vendu 600 exemplaires. Je l'ai réimprimé encore une fois, où j'ai acheté une feuille. Donc, on ne vend pas la poésie qui n'est pas de la poésie. Mallarmé, on dit que c'est pour être étranger, il n'écrit pas en français. Donc, on peut toujours trouver autre chose. Mais donc, le coup de Mallarmé, vendu à petit prix, que je le vends 38 euros, grand format qui ne rentre pas dans la librairie des personnes, c'est déjà 600 exemplaires de vendus. Et je pense que ça va continuer parce que quand après on montre qu'est-ce que c'est, pourquoi ça existe, qu'est-ce que ça signifie, on va au-delà des plans d'étiquettes, des lieux communs, d'histoires variées. Bon, il y a beaucoup de blancs.
Bon, est-ce que vous avez vu quand même que nous pouvions parler longtemps de cette chose dont on ne peut parler en France, paraît-il, sans se chamailler ? Donc, en prenant la température, je m'aperçois quand même qu'on peut encore parler l'année prochaine des nouveaux états généraux de la poésie en France. La France est-elle un segment de la poésie ou la poésie est-elle un segment de la France ? Je ne sais encore. Toujours est-il que, puisque cette discussion peut durer encore des heures, est-ce qu'il ne serait pas, par exemple, judicieux de poser la question au public et de voir s'ils n'ont pas des choses à nous demander ? Parce que ce sont eux qui achètent vos livres. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Oui ?
Bonjour, Jamel. Tu m'as dit un jour, René Girard est un poète. Quand on lit Mensonges romantiques et Vérités romanesques, qui est une lecture anthropologique des romanciers de génie, c'est de la poésie.
Je suis d'accord. Je ne renie rien de ce que je dis. C'est donc bien que ce segment dont on parle, qui est poétique, peut être aussi dans la philosophie. Il peut revêtir divers aspects. Moi, je ne me suis jamais retrouvé autant dans la poésie qu'en lisant Jacobson.
Oui, alors j'ai plein de questions dans ma tête, mais j'attends le moment favorable pour les poser. C'est qu'en lisant les livres écrits par un auteur que l'on lit, et là où ils sont édités, on s'aperçoit que les auteurs changent très souvent d'éditeur. Alors, est-ce que c'est une question de personne ? Est-ce que c'est vrai pour tous les auteurs ? Ou est-ce que c'est juste qu'on a envie de changer d'éditeur ? Je ne sais pas, moi. Comment ça se passe un peu ?
Qu'est-ce qui va répondre à cette question ?
C'est pas vrai. Pour moi, c'est absolument pas vrai.
Qu'est-ce qui va répondre à cette question ?
Mais je veux bien répondre. En fait, moi je pense simplement qu'il y a une couleur différente. Chaque éditeur a sa couleur, tout simplement. Je pense pas que ce soit des questions d'infidélité. Je pense simplement qu'un auteur peut trouver chez un autre éditeur une manière de défendre son texte autrement que là où il est. Enfin,
moi, de mon côté, c'est faux. En 15 ans, j'ai perdu une auteure. Et c'est cette année. Ils sont tous restés avec moi. Ah non, il y a deux, il y en a un qui est décédé, malheureusement.
Oui, sur la question, moi je crois assez à l'idée de catalogue, je crois assez à l'idée d'accompagnement dans le temps. On peut publier beaucoup de poètes français, parce qu'on a une grosse partie de littérature étrangère, mais beaucoup de poètes français chez Une ont publié leur premier ou deuxième livre chez Une, et évidemment il est hors de question d'imposer des clauses d'exclusivité dans les contrats, mais moi je demande à tous mes auteurs de lire en priorité tous leurs manuscrits. Et j'aime bien cette idée qu'ils restent à la maison. Bien sûr, on publie peu de livres. Moi, je publie 12 livres par an, ce qui veut dire que de temps en temps, un auteur qui a une crise de production doit bien mettre des textes ailleurs, parce qu'on ne peut pas tous les publier. Ça, c'est évident. Mais ce n'est pas tant de l'infidélité que de la curiosité, des choses comme ça. Mais c'est vrai que l'idée de catalogue et l'idée de suivi d'un auteur, d'évoluer avec lui, me paraît très importante dans notre travail.
Et on a parlé de désir, et c'est pas parce qu'on a du désir en tant qu'éditeur qu'il faut absolument être jaloux de ces auteurs. Les auteurs, il faut bien se dire que plus ils publient dans divers endroits, plus ils sont connus, et plus c'est rentable pour la maison qui les a édités. Quelqu'un que l'on connaît par ailleurs, dont on redit le nom ici ou là, fait que votre livre se vend plus facilement. Je suis désolé d'avoir à dire ça comme ça. Donc j'encourage mes auteurs à l'infidélité.
Vous évoquiez tout à l'heure une façon d'accompagner la poésie autre, au-delà du livre. Qu'entendez-vous par là ? Et à cette occasion, une question plus précise. Que pensez-vous de la poésie qui, comme ça le faisait auparavant dans... la naissance de la connaissance de la poésie en public, ça se disait. Comment situez-vous ce qui est actuellement publié par CD ? Où là, ce n'est pas, c'est auditif par rapport à la librairie.
Alors, ça pose la question d'un nouveau support qui est celui du CD. Est-ce que le CD est un livre, tout ça ?
Non, mais dans la mesure où moi je pars du principe qu'il faut lire la poésie, la lire à voix haute, donc pour moi le CD, j'en écoute beaucoup en voiture, je fais 40 000 km par an, donc j'en écoute beaucoup. On a créé il y a 10 ans un festival avec des amis qui est devenu maintenant le festival de la revue Nunc, et on organise à Bruxelles et à Paris des Frontenay hors les murs, donc c'est des excroissances de notre festival. Donc pour nous, la lecture à voix haute est fondamentale, c'est incontournable, et ça participe de toutes les animations qu'il faut organiser autour des recueils pour les faire vivre, tout simplement.
Bonjour, j'aurais une question pour les éditeurs concernant la publication de traductions, en fait.
Je voudrais savoir quels sont vos critères au moment où vous évaluez les manuscrits traduits, enfin de poèmes traduits qui vous sont transmis. Comment est-ce que vous lisez ces manuscrits et comment est-ce que vous les sélectionnez pour la publication ?
Ypsilon, ça c'est pour toi.
Je ne suis pas la seule à faire de la traduction, tu es aussi traducteur, François. Je pense qu'on lit une traduction comme on lit un auteur, il n'y a pas de différence. Après, donc c'est un bon texte, c'est pas un bon texte, c'est pas... On arrive à la langue d'origine, simplement si ça ne va pas ce qu'on lit. Et je pense que si on lit un texte directement écrit en français, c'est pareil, ça bloque, il y a un problème. Et c'est la même chose en traduction. Je sais pas si...
Bonjour. J'aimerais savoir... Pour chacun de vous, quel est le niveau d'intervention intime sur le plan artistique que vous avez avec l'auteur, soit au niveau de l'écriture, soit au niveau de la mise en page, etc.
Ah là là, toutes ces questions qu'on se pose chaque fois et qu'on nous repose encore. Et
ah, alors ça, madame... Autant moi j'ai aucun problème de parler du nombre d'exemplaires vendus sur un livre, etc. J'ai aucun tabou en édition, mais le travail entre l'éditeur et l'auteur, c'est du secret professionnel.
Ça alors ? C'est la première fois que j'entends ça.
Mais moi je suis assez d'accord.
C'est bien.
Je suis assez d'accord.
Ça prouve qu'on a encore de l'avenir dans la discussion. Je crois qu'il est temps que...
Alors, justement, avant que vous terminiez, deux petites choses. D'abord, vous dire que à l'occasion du marché de la poésie, il y a environ 350 nouveautés qui ont été annoncées par les éditeurs présents, ce qui n'est pas rien. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont oublié de remplir les cases qu'il fallait sur le site Internet. On doit plutôt être aux alentours de 400 nouveautés. Et puis, il y a 450 signatures qui se font pendant les 5 jours du marché de la poésie. Et je vais surtout vous libérer parce qu'ils ont accepté de sacrifier quelques heures qui sont des heures importantes pendant ce marché de la poésie, puisque le contact avec le public est une chose essentielle pour eux. Donc je les remercie d'avoir accepté de sacrifier ces quelques heures du début du samedi après-midi. Et maintenant, au boulot.
Merci.
Merci, merci Vincent.
Merci.
Le temps de... À 16h, nous avons une rencontre avec un poète catalan qui est Joan Margarit, qui est un... quand on a reçu son recueil, c'est vraiment quelque chose de magnifique qui a été publié aux éditions des Hauts-Fonds. Ça sera à 16h sur le podium.